énergie renouvelable, santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
questions d'éthique,
respect de la
politique internationale, biodiversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine à Délirium environnemental, encore plein de nouvelles à partager avec vous. Entre autres, on vous parle d'un nouveau sous-ministre au développement durable au Québec. Et oui, on vous parle de l'Arctique. C'est le nouvel Eldorado des ressources naturelles, paraît-il, entre autres choses. On vous parle de spermatozoïdes qui ont la vie dure à cause de la pollution. On vous parle aussi de changement climatique. Paraîtrait que le Québec fait très, 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 très dur à la veille de la grande réunion qui s'en vient en novembre. Et finalement, on vous parle d'exportation d'eau et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Sofiane Lejeune au micro pour vous divertir, mais surtout vous informer, je l'espère, en compagnie de l'équipe Bionique. Et j'ai nommé les deux Nicolas, Nicolas Mainville et Nicolas Milo. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Ça va très, très bien.
En cette belle semaine de la réduction des déchets au Québec, 5e édition consécutive, une belle façon de se rappeler que consommer, c'est automatiquement ou presque polluer.
Et voilà, et pour l'occasion, nous avons décidé de ne pas imprimer nos nouvelles. Alors aujourd'hui, nous dirons toutes nos nouvelles par cœur. Improvisation.
Improvisation libre sur le thème de l'information en environnement au Québec. Et donc, sans plus tarder, parce qu'encore une fois, c'est une grosse semaine en environnement.
Très grosse, très grosse.
Encore une fois. Donc, sans plus tarder, on commence une grande nouvelle, une nouvelle qui t'a fait très plaisir, Nicolas Mainville. Paraîtrait-il qu'il y a un nouveau poste qui vient d'être ouvert au ministère de l'Environnement, et celui de sous-ministre du Développement durable, rable.
Et voilà, en fait, un poste inédit dans le monde des fonctionnaires, un sous-ministre au Développement durable. C'est pas n'importe quoi, vous savez, parce que, bon, ça fait un petit peu trop longtemps qu'on entend parler de cette fameuse loi sur le développement durable. Vous savez que le ministre Mulcair a déposé en 2004 le projet de loi sur le développement durable qui a amené cette grande consultation publique à travers le Québec. M. Mulcair a fait des grandes consultations dans toutes les régions pour arriver à consulter les gens sur est-ce que vous voulez vraiment cette loi sur le développement durable.
Et surtout, quelle vision vous en avez.
Exactement. Donc, du beau PR pour M. Mulcair qui a quand même apporté certaines consultations intéressantes. Et puis, bon, puisque ce projet de loi et rentre en consultation à l'Assemblée nationale, eh bien, on annonce comme ça, tout de go, création d'un nouveau poste sous-ministre au développement durable, et on annonce du même fait qui sera cette personne. Cette personne sera, en fait, Léopold Gaudreau. Je ne sais pas si vous connaissez cette éminente personne de la machine gouvernementale québécoise, Léopold Gaudreau, qui est là depuis, en fait, la création du premier ministère de l'Environnement en 1979. Et depuis ce temps-là, a vu se succéder tous les ministres de l'environnement un après l'autre, et donc connaît très bien la chose environnementale québécoise.
Une particularité que tu amenais à mon attention, Nicolas, c'est le fait que cette personne-là n'est pas élue, et pour toi, ça a quelque chose de positif.
Tout à fait. En fait,
c'est peut-être plus l'inverse. Dans le fond, c'est se questionner sur cette nomination-là, parce que justement, on nomme quelqu'un qui n'est pas élu, donc c'est un haut fonctionnaire, et ce qui arrive, c'est qu'il ne faudrait pas en profiter au passage que de voir le gouvernement libéral, et peut-être éventuellement tout autre gouvernement, faire en sorte que des dossiers litigieux passent sur la responsabilité de cet individu-là et que le ministre, qui est responsable du ministère de l'Environnement et du Développement durable, lui, se voit un peu, en le fond, allégé de la tâche, de ses responsabilités. Donc, il ne faudrait pas que ça soit non plus un geste trop partisan que cette nomination-là. On peut être très content que ce poste-là soit créé aujourd'hui. Je pense que c'est une belle nouvelle pour le milieu environnemental, mais en même temps, il va falloir suivre quelle utilisation politique on en fait, parce que ça pourrait devenir très tentant pour les partis élus de s'en servir pour dire « Ah, mais vous savez, c'est pas nous, c'est les fonctionnaires, c'est la base non élue du gouvernement qui a pris ces décisions-là. »
Ce qui est intéressant avec la loi sur le développement durable, si elle finit par passer, c'est la question de son applicabilité dans les différents ministères. Vous savez que ça émane du ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs, mais que ce projet de loi-là s'applique à l'ensemble des ministères. Donc, l'idée étant d'inculquer cette vision du développement durable dans l'ensemble des ministères. Et puis, si M. Gaudreau a la tâche de faire le pont entre les différents ministères, évidemment, c'est un défi énorme. C'est une première, même si on est quand même 10 ans ans en retard, 15 ans en retard sur l'Europe qui fait déjà des grands pas dans cette direction-là. Nous, on commence. C'est évidemment un premier point intéressant, mais ce n'est qu'un petit pas, puisque là, lorsqu'on parle de cette loi sur le développement durable, évidemment, on ne parle pas de mise en application du développement durable sur le terrain comme tel. C'est vraiment la machine gouvernementale qui est évaluée par ça. Il y a entre autres la question de la Charte des droits et libertés qui veut y inclure le droit de vivre dans un environnement sain. C'est un des points forts du fameux projet de loi sur le développement durable. Plusieurs aspects intéressants. Et là, c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois, comment cette loi va passer et si ça va faire l'unanimité à l'Assemblée nationale.
D'autant plus que si je peux me permettre de vous suggérer un petit exercice théorique à la maison, je vous suggère d'aller vérifier sur tous les sites ministériels québécois, car chacun y va de sa propre idée du développement durable. Vous allez sur le site du MAPAC, ministère de l'Agriculture, Pêche et Alimentation. Vous allez sur le site du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Vous allez sur le site du ministère de l'Environnement. Même des ministères peut-être moins préoccupés par l'exploitation de ressources naturelles ou quoi que ce soit, ils vont aussi de leur élan. Et si on nous sert la même rhétorique en début, c'est-à-dire que le développement durable, c'est l'alliance de l'économique, du social et de l'environnemental au sein d'une perspective intergénérationnelle, tout le monde est bien d'accord là-dessus. Mais quand on regarde au niveau de la politique concrète d'un ministère, mais on voit que des fois ça prend une petite image un peu plus teintée d'un historique fort, par exemple en développement soit industriel, en utilisation abusive des ressources. C'est loin d'être tout propre et tout clair cette question-là du développement durable. Et bon, je pense qu'on a choisi quand même la bonne personne pour essayer de rassembler des personnes. C'est une personne qui connaît extrêmement bien la machine gouvernementale.
Et qui va peut-être justement pouvoir redonner un peu de son sens à ce terme qui a tellement été galvaudé et utilisé à toutes les sauces, parce que s'il y a une récupération, voire bafoué, parce que s'il y a un terme qui a été vraiment vidé de tout son sens et récupéré à la source marketing dans notre société, c'est bien celui de développement durable, entre autres choses, bien sûr. On s'arrête ici, messieurs, si vous le permettez. Merci beaucoup, Nicolas Mainville et Nicolas Milo, d'avoir partagé cette bonne nouvelle jusqu'à so far so good, donc jusqu'à preuve du contraire. C'est une bonne nouvelle. On regarde à l'œil, bien entendu, pour vous, messieurs, dames. Au retour, on vous parle du nouvel Eldorado. Semble-t-il que depuis que les glaces fondent en Arctique, plusieurs prospecteurs sont très intéressés par les nombreuses ressources naturelles qu'on pourrait peut-être y trouver.
Grosse nouvelle.
This is
retour à Delirium environnemental. On poursuit donc la revue de presse, revue de l'actualité, si bien entamée avec une bonne nouvelle. On continue sur une autre nouvelle qui doit faire très plaisir aux grands financiers de ce monde qui voient l'Eldorado et qui bavent probablement en regardant les ressources naturelles qui vont peut-être être libérées par la fonte des glaces de l'Arctique. Nicolas Mainville, Nicolas Milo, grosse nouvelle. On commence peut-être justement par toutes ces questions de prospection gazière, diamantaire, etc.
Oui, c'est la manne. Hein? C'est le New York Times qui nous en parle cette semaine. Un article intéressant qui fait un peu le survol de la situation avec la fonte des glaces et qui va analyser les différents pans de l'économie mondiale qui se penchent sur la question de l'Arctique et de cette nouvelle transformation accélérée des fontes. Et une statistique qui est intéressante qui ressort tout de suite dans le début de l'article, c'est le fait que vous savez que l'Arctique contient apparemment un quart des ressources mondiales de pétrole. Alors évidemment, lorsqu'on regarde ça, plus les glaces fondent, plus on a de la facilité à exploiter ces ressources-là. Et donc, ironiquement, la cause de cette fonte accélérée en devient le moteur de son exploitation encore plus grande, c'est-à-dire qu'on va aller exploiter plus de pétrole dans une zone qui est affectée par les changements climatiques. Autre gros dossier qui est relevé par le New York Times, c'est la question de la prospection minière, entre autres la grande multinationale De Beers. Vous connaissez cette plus grosse productrice et ceux qui coupent et produisent des diamants. De Beers est vraiment, je pense, possède à peu près 80% du marché mondial, qui est en train d'investir des millions dans l'Arctique pour justement trouver des failles de kimberlite. Kimberlite qui est une roche magmatique qui contient des diamants la plupart du temps. Et puis, sachant que De Beers investit là, évidemment, ça l'attire plusieurs investisseurs autres que cette multinationale. Il y a toute la question du gaz naturel aussi, et puis la Chine qui se penche sur cette question. Déjà,
une station, une plateforme de recherche qui a été installée par la Chine pour regarder les ressources, entre autres, de gaz naturel. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a environ 4 millions de personnes qui vivent dans cette région-là, la région arctique, 150 000 Inuits, 8 pays côtiers, hein, faut s'en rappeler, États-Unis, Canada, Russie, Norvège, Finlande, Danemark, Suède et Islande. Et puis, avec tous ces attraits économiques-là, eh bien, c'est la guerre des frontières qui commence. On en a déjà parlé à l'émission, mais c'est clair qu'il y a de plus en plus de disputes à savoir qui va se partager la grosse part du gâteau. Il y a déjà des conflits entre la Norvège et le Canada dans une section proche de l'île de Bande, je me rappelle pas exactement
du nom. Je sais qu'il y en a entre le Groenland, entre le Danemark.
Exactement, Groenland, oui.
Et le Canada. Et ce qui est aussi particulier, c'est qu'en Arctique, il n'y a pas de continent arctique. Donc, le sous-sol sous-marin n'est pas divisé comparativement au pôle sud, où on a vraiment des divisions qui partent du pôle sud et qui permettent à certains pays de pouvoir avoir un contrôle sur certaines autres. Et aussi, il y a un accord international qui interdit toute prospection ou exploitation de ressources naturelles dans l'Antarctique. Mais au niveau de l'Arctique, ça n'a jamais été fait. Il n'y a pas de continent. Donc là, on se retrouve dans une espèce de nuage flou, d'autant plus que, historiquement, c'est pas tout le monde qui a porté le même attrait à aller dans la région et à surveiller. Le Canada, on est très loin de maîtriser notre région, même si on est souverain sur une grande majorité du territoire arctique.
Exactement. Puis je pense qu'une notion intéressante à apporter, c'est la question des Nations Unies et le rôle que les Nations Unies jouent. Vous savez qu'il y a la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui régit en fait les règles suivant lesquelles les États peuvent étendre leur souveraineté aux espaces maritimes ou non. Et puis les États-Unis, n'ayant pas ratifié cette convention-là, se retrouvent dans une situation un peu précaire. Vous savez que l'Alaska est tout à fait en zone arctique. Et puis, les conflits semblent vouloir émerger de toutes parts. Il y a d'ailleurs le Canada qui va lancer un satellite cette année pour justement maintenir une observation plus fréquente sur le territoire. On aurait engagé au Canada plus de 150 000 Inuits. Est-ce que c'est le bon chiffre? 1500 Inuits pour justement vérifier, faire de l'observation sur le terrain pour voir s'il n'y a pas des chalutiers qui passent pour la pêche en haute mer. Et ça, c'est un autre très gros dossier. La pêche, vous savez que la fonte des glaces apparemment va libérer des quantités de matière organique importantes qui va provoquer l'explosion des bancs de poissons dans ces régions-là. Et donc, évidemment, c'est une autre ressource extrêmement convoitée du fait que des pollutions de plusieurs bancs de poissons à travers le monde. On se retourne vers l'Arctique pour voir est-ce que ça va être le nouveau, justement, Eldorado des poissons? Et puis, c'est rien d'encourageant point de vue respect de l'environnement. Il y a des grosses plateformes de forage un peu partout qui sont en train de s'installer et c'est une course contre la montre. Et évidemment, faut suivre ça puisque, écoutez, ça nous concerne directement. En plus qu'on est en train de perturber ces milieux-là, ben c'est la biodiversité, c'est tout ce que ça implique, non?
C'est d'autant plus inquiétant qu'habituellement, c'est souvent les mobilisations sociales qui vont attirer l'attention des pouvoirs publics justement pour la protection de certains écosystèmes. Système ou de certaines régions ou territoires et que dans ces régions-là, malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup de gens pour se mobiliser, il n'y a donc pas beaucoup de gens pour tirer la sonnette d'alarme. Mm-hmm. D'autre part, devant tant d'intérêts, notamment économiques, on songe à construire un port qui accueillerait justement les différents bateaux qui veulent venir, je m'excuse, mais vider les ressources du grenier du monde.
Mais peut-être juste avant d'y aller de cette nouvelle-là, peut-être juste vous signaler que tout n'est pas dans un flou total. Il y a quand même plusieurs personnes qui se penchent sur la chose et il y a entre autres cette semaine à Rimouski, le Ocean Innovation 2005 qui va se tenir là-bas. C'est 200 personnalités issues du milieu de la recherche qui vont se rejoindre pour justement discuter de ces impacts-là de l'ouverture du passage du Nord-Ouest. Il ne faut pas juste penser au passage du Nord-Ouest qui permet de passer par-dessus le Canada. On voit avec la fonte totale du couvert de glace qui pourrait arriver d'ici 20-25 ans, un passage, par exemple, du nord de la Russie à l'Europe directement par le nord, donc par le pôle nord. Donc ça permettrait, entre autres, à tous les minerais qui vont être extraits de la Sibérie d'arriver en Europe, pas par le train en Sibérie, mais vraiment de passer par-dessus. Là, m'amène avec la petite nouvelle qui peut-être nous montre qu'on est vraiment présentement dans une ruée vers le Grand Nord. Et Iqaluit, vous savez Iqaluit qui depuis quelques années est la capitale du troisième État, du troisième territoire canadien, le Nunavut. Donc, qui eux autres ont fait la demande au gouvernement fédéral de devenir le premier port en eau profonde du Grand Nord québécois. La même demande ont déjà émergé du côté des territoires du Nord-Ouest dans plusieurs endroits. Donc, on voit qu'il y a déjà une ruée pour s'attitrer le rôle de port en eau profonde dans le Grand Nord qui permettrait, dans le fond, de faire le pour les différents bateaux. C'est à suivre. Ça va naviguer dans pas très, très longtemps dans le Grand Nord.
Décidément, un dossier à garder à l'œil pour tous ceux qui voudraient s'informer plus amplement. Bien sûr, via notre site Internet, vous aurez accès aux différentes nouvelles desquelles on vous parle. Et ce site Internet-là est disponible au www.radiodelirium.net. De retour à Délirium environnemental. On vous parle de changement climatique dans cette revue de presse, revue de l'actualité. S'il y a un sujet qui est à la mode ces temps-ci, c'est bien celui des changements climatiques. Et on comprend pourquoi. Il y a plein de raisons bio, géophysiques qu'on peut observer. Mais il y a aussi le fait que de plus en plus, bien, il y a un système de prise en charge formelle qui s'est mis en place. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, en novembre prochain, Montréal sera l'hôte de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. J'ai été intéressée d'apprendre qu'il s'agit du plus grand rassemblement de nature non sportive jamais tenu au Canada depuis Expo 67. Saviez-vous ça? J'ai trouvé ça rigolo.
Le changement climatique, c'était pas du sport, ça.
C'est vrai, du coup, comme ça. Eh bien, saviez-vous que le 26 septembre dernier, un grand nombre de groupes environnementaux québécois ont adopté une déclaration officielle exhortant le gouvernement du Québec à agir en matière de lutte au changement climatique? Parce que, justement, vous savez, le Québec ne s'est toujours pas doté d'un plan d'action pour le changement climatique. En fait, on en avait un qui a pris fin en 2002 et depuis, rien n'est fait dans ce sens-là. Et puis, comme on va être l'hôte de cette grande conférence-là, rassemblant plus de 105 pays, ça fait un petit peu dur. Si vous voulez, j'ai assisté pour vous à la conférence de presse qui était donnée par les différents groupes environnementaux. On écoute tout de suite M. André Bellil de la QLPA, donc l'Association québécoise pour la lutte contre
la pollution atmosphérique.
Merci beaucoup. Vive les acronymes. Donc, on l'écoute et au retour, justement, on parle un peu plus amplement avec Nicolas Mainville de pourquoi le Québec fait figure de cancre ou est un cancre. Bref, le mauvais élève.
Pour faire un peu un survol historique, en 96, 17, 18, et 19, le gouvernement du Québec nous avait appointé pour établir différentes mesures, différents scénarios d'action sur ce qu'on devait faire et ça a même donné naissance à un plan d'action 2000-2002, ces changements climatiques, que malheureusement, dès qu'on a établi le plan, on s'est empressé de l'oublier. Alors, on a perdu beaucoup de temps et c'est important de rappeler que depuis 2000, il n'y a rien qui se passe ou à peu près très peu et on avait tous les outils en main. Alors, quant à nous, l'action prouve la pensée. Et en tant qu'hôte de la première rencontre de la mise en œuvre du protocole de Kyoto, le Québec et le Canada ont l'obligation morale de présenter à la communauté mondiale des plans d'action sérieux en matière de GES. Pourtant, aujourd'hui, nous n'avons rien de convaincant à présenter. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de travail qui a été fait. Il y a eu beaucoup de travail. Malheureusement, on est obligé de constater, vu les résultats qu'on connaît, que maintenant le Canada est devenu le plus grand pollueur ou presque sur la planète et on va être l'hôte de la mise en œuvre de Kyoto. Ça fait dur et on devra réagir. Et pour nous, ben, nos deux gouvernements, malheureusement, autant à Québec qu'à Ottawa, n'ont pas fait le travail et c'est important que ça se sache.
Donc, on vient d'entendre André Bellil de la QLPA. Vous pourrez avoir plus de détails, bien entendu, via notre site Internet au www.radiodelirium.net. Donc, plusieurs, justement, s'entendent pour dire que le Québec fait dur et le Canada d'autant plus dans, justement, l'atteinte des objectifs du protocole de Kyoto.
Et là, on touche un filon, mesdames et messieurs. Écoutez, je vais vous faire une petite pause là-dessus. Là. Vous savez, on parle de changement climatique. On va consulter la population la semaine passée, sondage Crop la presse, qui demande aux Québécois, écoutez, êtes-vous préoccupés par les changements climatiques? La réponse selon vous, Monsieur Milo, qu'est-ce que vous en pensez?
88,2% de la population.
Vous êtes donc optimiste. Trois Québécois sur quatre, 76% de la population se disent inquiets du réchauffement de la planète. OK? Première chose. Non seulement ils se disent inquiets, mais ils seraient prêts à 69% d'investir 1% de leur salaire pour lutter contre les changements climatiques. Okay? C'est la situation en ce moment au Québec. C'est sûr, c'est un sondage. Bon, on peut mettre ça en question. Mais on se retrouve carrément dans une situation où est-ce que le gouvernement n'est pas représentatif de la préoccupation de la population. Vous savez que en 2003, le Québec a fait figure de proue, point de vue augmentation de gaz à effet de serre. On a augmenté de 7,1 nos émissions de gaz à effet de serre au Québec de 2002 à 2003.
Donc, c'est figure de proue, mais poche.
Ouais, proue-poche. Ou poche-proue. Tout est possible. Et tout étant en tout, cette augmentation de 7,1% nous met à la tête de la liste des provinces émettrices de gaz à effet de serre. Vous savez que après nous, c'est la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan, mais il y a quand même des provinces comme le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve qui ont réussi à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Je vous rappelle, l'objectif de Kyoto, réduire de 6% des niveaux de 90. On parle toujours de nos émissions de gaz à effet de serre. cancer. Alors, si on augmentait en un an de 7%, il faut qu'on réduise de 6% de nos niveaux de 1990, ça fait dur. Et pendant ce temps-là, et M. Bellil le dit très bien, on n'a pas de plan d'action. On a eu la chance d'en avoir un pendant deux ans, de 2000 à 2002, mais malheureusement, ce temps est révolu. Nous sommes maintenant en 2005, bientôt 2006, et M. Charest batifole dans son bureau en train de se questionner sur des choses qui ne concernent pas nécessairement la mise en œuvre d'un plan d'action stratégique pour lutter contre les changements climatiques.
Une chose qui était intéressante aussi à cette conférence de presse, on rappelait le fait que, bon, oui, justement, 6% en dessous des niveaux de 1990, mais qu'il faut aussi de plus en plus inclure les objectifs à beaucoup plus long terme, donc de Kyoto 2, 3, voire 4. Et ça, ça voudrait dire inclure des objectifs de réduction à long terme de l'ordre de 15 à 30% d'ici 2020 et de 60 à 80% d'ici 2050. C'est parce qu'il va falloir s'atteler à la tâche, parce que ça va pas se produire comme ça, puisque justement, on a cesse d'augmenter depuis qu'on a fait... On a pris acte des changements climatiques.
On parle en fait d'une augmentation de 22% des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. Okay? C'est un chiffre assez accablant. Ces données-là, d'ailleurs, qui sont sorties de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre que le Canada a déposé la semaine passée aux Nations Unies. Vous savez que chaque année, on devra déposer des rapports comme ça aux Nations Unies puisqu'on on a ratifié le protocole de Kyoto qui est maintenant en œuvre depuis février, je vous le rappelle. Alors, en donnant ces registres-là, ces inventaires d'émissions, on peut suivre le fil de ce qu'on en fait. Évidemment, c'est des registres qui viennent des années passées. On n'est pas capable de dire déjà ce qui se passe 2004-2005 ou 2005-2006, puisqu'on n'est pas rendu là encore. Mais c'est des chiffres à suivre puisque ça nous donne la tendance. Peut-être un petit bémol par rapport à ça, c'est la question de l'augmentation de 7% justement en 2002-2003. M. Mulcair lui-même qui réagit à ce chiffre en disant, écoutez, en 2003, c'est une année où est-ce qu'on a utilisé beaucoup la centrale thermique de Sorel-Tracy, vous savez, cette centrale au mazout lourd, qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, c'est une donnée à considérer dans ces chiffres-là. Malheureusement, ça fait partie de la game et faut rappeler aussi, entre autres, que les changements, les calculs d'émissions de gaz à effet de serre devraient changer dans les prochaines donnes pour Kyoto 2, Kyoto 3, entre autres pour inclure les émissions de gaz à effet de serre provenant des barrages hydroélectriques. Vous savez qu'on émet...
Ils sont toujours pas...
Ils ne sont pas calculés. Voilà.
Hey, t'allais dire, vous savez que présentement, on émet...
Oui, je connais pas le chiffre exact. Je pense que ça représente environ 12% d'augmentation pour les si on considère les barrages hydroélectriques. Mais il faudrait demander à notre spécialiste Patrick Bonin qui est absent cette semaine.
On se souvient que c'est parce que justement quand on construit des barrages électriques, on inonde des grands territoires et c'est de ces inondations-là que certains gaz à effet de serre sont émis. Voilà.
Moi, je peux peut-être y aller un petit commentaire qui me fait très plaisir aujourd'hui. Vous savez qu'on blâme beaucoup les gouvernements. Au moins, même si le pouvoir de consommateur ne peut pas tout régler, il reste que GM, qui base l'essentiel de son marché sur les véhicules utilitaires sport, véhicules très énergivores qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, eh bien, GM a des pertes nettes de 1,6 milliard au mois d'août. Moi, ça me fait plaisir.
C'est incroyable. Mais puis pendant ce temps-là, l'Union des consommateurs qui s'unit pour dire puis demander au gouvernement, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre des mesures incitatives pour que les consommateurs achètent plus, donc des mesures compensatoires pour des véhicules moins polluants, donc moins grands émetteurs de gaz à effet de serre, et des taxes pour les grands émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, c'est intéressant quand l'Union des consommateurs du Québec se met ensemble pour demander au gouvernement des stratégies pour lutter contre les changements climatiques.
On sait que le gouvernement du Québec a voulu faire plaisir à la population et aux consommateurs en disant qu'il allait peut-être, notamment, peut-être, il songeait à peut-être financer l'achat de voitures hybrides, chose qui a été décriée par certains groupes environnementaux en disant, c'est bien beau, mais encore faudrait-il commencer par financer ces voitures qui ont faible consommation parce que ça peut être problématique, justement, si on finance des Hummer hybrides, notamment. Autre mesure, j'ai été heureuse d'apprendre. Je vous invite à découvrir ce magazine si vous ne le connaissez pas, La Maison du 21e siècle, le magazine de la Maison Saine.
Une référence en la matière.
Vraiment, vraiment, si vous êtes juste intéressé aux questions environnementales, je pense que c'est vraiment un magazine à se procurer. On parle notamment ici, là, dans le numéro d'automne 2005, que Hydro-Québec offrira dès l'an prochain une aide financière pour l'installation des systèmes géothermiques résidentiels puisant l'énergie du sol pour chauffer et climatiser les maisons. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'on sait qu'un des freins à l'autonomie des résidences en termes d'énergie, donc le fait que les résidences puissent produire seules leur énergie, c'est le fait qu'Hydro, pour l'instant, n'est pas intéressé à racheter l'énergie. On apprend aussi là-dedans qu'Hydro-Québec, de plus en plus, songe, encore une fois, ce n'est qu'un songe et bientôt peut-être ce sera la réalité, à racheter les surplus produits par les individus. Ça serait une très, très bonne nouvelle, justement. On poursuit, non. Changement climatique, on a relativement fait le tour pour cette semaine. On s'arrête ici. On poursuit la revue de presse, revue de l'actualité. Au retour, on va vous parler notamment des suites du rapport Coulombe. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent vont être investis. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot « investi » dans la forêt québécoise, mais on vous parle aussi d'exportation d'eau des Grands Lacs, notamment.